Bienvenue sur 1, 2, 3 Cocktails, le podcast qui mélange tous les ingrédients pour booster ta crédibilité en ligne et faire briller ton site internet comme jamais. Je suis Christine, correctrice web, et je t'aide à avoir un site qui renvoie une image professionnelle. Ici, on mélange conseils d'expertes, astuces pratiques et discussions inspirantes pour que ton site devienne ta meilleure carte de visite. Toutes les deux semaines, je reçois une nouvelle experte qui ajoute un nouvel ingrédient au cocktail pour que tu aies tout ce qu'il te faut pour que ton site inspire confiance et incite tes visiteurs à passer à l'action. Mon invité te livre son savoir-faire et te donne des actions concrètes à mettre en place. Le shaker est prêt, installe-toi confortablement et embarque avec moi pour un nouvel ingrédient qui va booster la crédibilité de ton site. 1, 2, 3, c'est parti! Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 6 d'un, 2, 3 cocktails dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Jenny Jeffy. Ensemble, on va parler de branding ou encore d'image de marque et de comment bien le travailler est important pour ton site web. Bonjour Jenny, comment tu vas?
Très bien, je suis super enthousiaste d'être là sur ton podcast. Merci pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir accepté. Pour commencer, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore.
Oui. Alors, moi, je suis brand designer depuis 18 ans. J'ai eu un parcours assez classique d'agence, donc 4 ans et demi en agence. J'ai moins aimé ça, le 9 à 5, fait que je suis partie vite à mon compte. J'ai fait une formation d'entrepreneuriat et je suis partie à mon compte en 2011. Depuis ce temps-là, je fais beaucoup de brand design pour des clients. J'ai travaillé avec des agences. J'ai eu un petit parcours aussi en direction de shoot photographie de mode que j'utilise maintenant aussi dans mes offres. Donc, j'offre la préparation de photoshoots professionnels pour les entrepreneurs qui ont besoin de créer leur contenu. On va sûrement en parler dans le site web d'ailleurs. Et je dirais que ce qu'il y a de plus nouveau, en fait, en ce moment, depuis un an, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et grâce à l'AI et à l'utilisation des applications qui sont accessibles aux entrepreneurs, de créer, en fait, des programmes d'accompagnement pour que les entrepreneurs puissent faire eux-mêmes leur branding. Donc, je dirais que c'est ça qui est assez spécial dans mon univers. Voilà.
Je précise que j'ai suivi, d'ailleurs, ton accompagnement, justement, pour co-créer avec toi son branding, puis c'était une super belle expérience. Donc, c'est sûr que j'invite toute personne qui a envie de travailler ou de retravailler son branding, qui a envie de mettre la main à la pâte en fait pour travailler ça, je leur conseille vraiment de suivre ton accompagnement.
Merci, ça fait un plaisir de t'accompagner.
Mon logo tel que les gens peuvent le connaître, Christine Delage, là c'est ça, c'est le fruit de ton travail, de notre travail en collaboration.
De notre travail de co-création, ouais.
Alors, ma première question, c'est, peux-tu nous expliquer ce qu'est une image de marque? Parce que souvent, on va confondre image de marque, identité visuelle, branding, tout ça, c'est des termes qui se ressemblent, qu'on confond. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi une image de marque et en quoi c'est essentiel pour les entrepreneurs?
Oui, j'adore cette question. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui circulent. Donc, ça va beaucoup aider les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, en effet, l'image de marque, souvent, on va penser que c'est le logo. Et dans le fond, l'image de marque, c'est vraiment, en fait, ce que les gens vont retenir de toi, de ton entreprise. Donc, c'est vraiment la perception globale sur le long terme que tu vas créer. Donc, c'est un ensemble dont l'identité visuelle fait partie. L'identité visuelle, c'est vraiment les éléments visuels, comme le dit, en fait, le mot, que tu vas voir en fait de cette identité d'entreprise. Donc, le fameux logo, la palette de couleurs, les éléments graphiques, les photographies de marque. Tout ça, c'est vraiment les identités. Donc, l'identité visuelle, c'est vraiment ce qu'on perçoit, on va dire, visiblement à l'œil. Et l'image de marque, c'est toute l'activation des émotions, la perception, la réputation qui va se faire. Donc, un peu la présentation, comment je pourrais dire? On parle toujours de vitrine un peu, donc c'est un peu comme ton représentant de vente, moi j'aimerais ça dire, qui va venir refléter vraiment tes valeurs, ta mission et tout ce que tu veux refléter dans le fond, dans ton identité.
Mm-hmm. Donc l'image de marque, en fait, ça s'appuie, c'est un ressenti qui s'appuie sur les éléments visuels aussi parce que...
Oui, exactement.
C'est à travers les éléments visuels qu'on va ressentir quelque chose aussi.
Alors oui, surtout pour ce qui est des entrepreneurs qui sont en service, mais après ça, si mettons, on va encore plus loin, parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est que dans le fond, ça peut être aussi tout ce qui est, en fait, tout ce qui est sensoriel. Donc ça peut être autant le toucher Si on pense, par exemple, justement, à l'emballage, mettons qu'on y va avec Apple, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sensoriel, mais quand même, on voit qu'avec l'emballage, la façon qu'ils disposent les affaires et tout ça, il y a une expérience, en fait, qui est en train de se créer. Il y a aussi, lorsqu'on va dans un magasin et qu'on a une odeur spécifique, on pourrait faire attention à ça en allant en magasin, dans les prochains magasins, justement, avec, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'image de marque. On peut penser à la musique aussi. Souvent, c'est en boutique que ça va se faire, mais on peut aussi penser aux entrepreneurs en service qui vont utiliser certaines musiques, par exemple, dans leurs stories. Donc, il y a quand même moyen de reproduire, en fait, le multisensoriel aussi pour les entrepreneurs qui sont en service ou qui vendent des produits digitaux. Donc, c'est vraiment multisensoriel. C'est le ton de voix aussi. Le ton de voix, l'image de marque. Donc, le ton de voix, comment on va communiquer, c'est quoi les expressions, est-ce qu'on va être dans le vouvoiement, dans le tutoiement? Donc, voilà, c'est juste pour donner un petit peu plus de concret.
Puis évidemment, tu vas être d'accord avec moi si je dis qu'il faut qu'une image de marque soit forte et cohérente pour bien fonctionner. Donc, c'est quoi les bases d'une image de marque forte et cohérente?
Donc les bases, en fait, ça va être vraiment de travailler en fait sur la personnalité de la marque en tant que telle. Donc d'aller chercher les caractéristiques en fait. Donc comment en fait on veut être perçu par le client. Donc ça c'est important déjà de travailler là-dessus. Après ça, c'est sûr que ça va être de travailler sur la fameuse mission, vision, valeur. Donc vraiment déterminer tous ces fondations-là qu'on demande en général pour faire, par exemple, un plan d'affaires ou pour le marketing. Donc ça va être de bien définir les fondations aussi pour pouvoir en parler. Et je dirais après, c'est sûr que les bases, c'est bien sûr de travailler tout ce qui est tangible, donc l'identité visuelle. Donc d'avoir, oui, son logo, mais d'avoir, de statuer, de calibrer sa palette de couleurs, choisir ses typos, définir son style de photo, par exemple, pour justement faire un futur photoshoot professionnel. Donc ça va être vraiment les bases.
Puis quand on parle de couleurs, souvent les gens sont un petit peu mélangés aussi de savoir combien il faut de couleurs. Est-ce que je dois avoir des couleurs foncées, des couleurs claires? Rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit choisir au niveau des couleurs?
Oui, les couleurs, premièrement, c'est sûr que dans un logo, on va avoir souvent deux. Moi, je recommande deux. J'essaye d'éviter d'aller au-delà de deux parce qu'on veut justement activer le côté mémorable de l'identité, si on peut dire. Donc, j'aime bien avoir une couleur foncée. Souvent, on va l'utiliser la couleur foncée pour la typo, donc le texte du nom de l'entreprise. Et on va peut-être avoir un genre d'icône ou de symbole ou quelque chose que là, on peut travailler avec une deuxième couleur qui, elle, va être ma couleur punch ou ma couleur d'identification, si on peut dire. Donc ça, c'est déjà pas mal la base, je dirais. Puis après ça, moi, j'aime bien, si on a beaucoup de services, qu'on a beaucoup de produits, rajouter des couleurs pour aller identifier ces différents services-là. Puis une couleur pâle, je dirais. Donc, j'irai pas trop dans les détails comme je l'ai fait avec l'accompagnement parce que bon, dans mon univers, ça peut aller jusqu'à 8. Mais disons que une couleur foncée, une couleur pâle, puis peut-être deux couleurs, mettons, comment je pourrais dire, qui se complètent là. Donc, ce sont deux couleurs qui vont être un peu différentes pour vraiment avoir déjà une belle gamme, travailler les fonds avec les fonds, par exemple, lorsqu'on a des contenus avec beaucoup de texte, qu'on puisse mettre une couleur pastel ou claire. Puis, je pense qu'on devrait déjà être pas mal en business avec ça.
Le contraste est important justement pour la lisibilité.
Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours d'avoir une couleur foncée. Puis de pas toujours aller dans le noir, parce que souvent on va se dire, oh, je vais mettre mes typos en noir. Mais on peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Là, on peut trouver des gris avec des teintes qui vont aller justement rejoindre un peu plus la symbolique des couleurs qu'on veut leur donner. Puis ça, c'est tout le côté symbolique, mettons, des couleurs qui peuvent justement activer certaines émotions et certaines valeurs. Donc, ouais, un beau travail à faire en arrière.
En effet. Et puisque le but de ce podcast, c'est de nous aider à avoir un site web qui renvoie une image professionnelle, qui nous rend crédible, peux-tu nous dire en quoi une image de marque bien définie peut influencer la crédibilité d'un ou d'une entrepreneur et à l'inverse, comment un branding négligé, entre guillemets, peut nuire à cette crédibilité?
Ouais, j'adore cette question. En fait, moi, j'aime ça voir le branding comme le représentant de vente. Donc, c'est sûr que si le représentant de vente est négligé, qu'il n'est pas, c'est ça, présentable, qu'il ne parle pas bien, qu'il véhicule pas les valeurs, mettons, de justement de l'entreprise, ben ça va nuire aux ventes. Ça va nuire aux ventes, ça va nuire à la crédibilité, à la confiance surtout. Donc, un branding négligé, ça ment, c'est comme si tu étais négligé, hein. On va y aller vraiment fort comme ça, mais c'est ça que ça fait. On fait à ce point-là, mais c'est ça que ça va donner comme impression. La personne va pas se dire ça forcément, mais elle va avoir cette espèce de ressenti et elle va essayer justement de magasiner entre guillemets ailleurs pour aller voir, pour peut-être aller s'en aller vers quelqu'un qui a justement un branding qui est plus soigné, cohérent, crédible, solide. Et qui véhicule les bonnes choses aussi, parce que on peut avoir un beau branding, mais lorsqu'on arrive, mettons, je sais pas, devant la personne, ou qu'on arrive en magasin et qu'il y a une espèce de déconnexion, donc je sais pas, au niveau de la qualité ou au niveau même de ce que c'est vraiment le produit, ben là aussi ça peut faire mal. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que ça soit aligné, vraiment aligné de A à Z. Donc ça peut vraiment aider, parce que vu que c'est ton représentant de vente, ben ça peut t'aider à réchauffer, mettons, tes prospects, si on peut dire, à commencer à les convaincre, à construire cette réputation aussi de ton entreprise. Et bien évidemment, ben la personne, elle va magasiner, donc elle va être plus enclin à te choisir si ton branding est soigné que si ton branding est amateur, mettons, ouais, ou incomplet.
Justement, ça va avec ma prochaine question,
Oui.
qui est de nous dire quelles erreurs tu vois fréquemment sur les sites web par rapport à l'image de marque. Ça revient peut-être à nous dire, c'est quoi aussi une image de marque négligée?
Oui, ben souvent en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va vite sauter sur le projet du logo. Donc, on va faire la création du logo et après ça, oups, on va vite aller faire le site web avec juste le logo. Donc ça, déjà, c'est un signe que justement c'est mal fait dans un sens, parce que c'est pas complet. Donc je dirais, quand un branding est incomplet, ça se sent sur le site web, parce que on a justement fait ça un peu trop vite. Donc on réalise par exemple qu'il n'y a pas des couleurs de marques qui sont identifiées. On n'aura pas de trame aussi, on n'aura pas de ligne directrice, mettons, par rapport au visuel. Donc ça veut dire que, par exemple, la personne, elle va sûrement utiliser beaucoup de photos, mettons, de banques, voyons, qui sont prises sur des banques, voyons, je vais te le dire, libres de droit. En soi, c'est pas un problème que ça soit des photos libres de droit, mais ce qui est un problème, c'est lorsqu'on n'a pas On n'a pas fait le travail de trouver la ligne directrice. Donc, l'histoire en arrière, le style photo qu'on veut aller chercher, la palette de couleurs, tu sais, les émotions qu'on veut qu'elle véhicule à travers la photo. Donc, ce qu'on va voir sur un site web, c'est des photos qui n'ont aucune histoire, qui ne se parlent pas, qui n'ont pas de style, qui, par exemple, sont multicolorées. Il y en a une en noir et blanc. Donc, vraiment, une espèce de mix and match, qui ont aucune relation entre elles. Donc, ça, c'est l'erreur que je vois numéro un. Souvent aussi, ce qu'on va voir, c'est des photos, par exemple, qui sont vraiment prises, par exemple, sur la première page sur la première page des sites web de libre de droit. Là, on voit toujours les mêmes photos avec les mêmes visages. Fait que je pense que l'erreur aussi, c'est de pas regarder ce qui se passe dans le marché et de prendre dans le fond des photos qui sont accessibles et de pas avoir regardé. Donc souvent, ce qu'on va voir, c'est les mêmes photos partout. Partout, puis dans les mêmes, des fois dans les mêmes industries. Donc ça fait vraiment mal, parce que ça dilue énormément la force de la personnalité. Donc je te dirais que c'est pas mal ça, les grosses erreurs que je vois. Après, c'est sûr que c'est plus dans le texte, tu sais, on voit pas de ligne directrice dans le site web, donc tout est décousu. Fait que là, on rentre plus dans le texte, mais mettons, si on reste visuellement, c'est souvent ça que je vois comme problème. C'est que c'est pas c'est que on voit qu'il y a juste eu un logo, puis c'est tout. Là, tu sais, il y a pas d'autre chose qui a été définie.
Est-ce que tu vois aussi souvent des sites où, justement, on parlait de contraste tout à l'heure, où il y a un problème de contraste au niveau des couleurs,
Oui, c'est un bon point.
puis, par exemple, un texte foncé écrit sur un fond foncé, puis c'est pas très lisible, ou des couleurs très fluo aussi qui sont moins lisibles.
Oui, alors ça, c'est un très bon point. C'est vrai que c'est une erreur aussi que je vois souvent. C'est par exemple de travailler des sites web au complet sur des fonds foncés, donc d'avoir de la typo blanche ou de couleur claire sur un fond foncé. Ça, c'est vraiment fatigant pour le lecteur. Puis c'est. Ça manque de dynamisme, mais aussi, oui, l'idée du ne pas avoir justement des couleurs contrastées, ça peut être, c'est en effet un problème de graphisme, de connaissances aussi, un manque de connaissances esthétiques au niveau du graphisme. Donc vraiment d'aller chercher des contrastes, des hauts contrastes, vraiment prendre le recul lorsqu'on fait une page et de voir si c'est visible, c'est en effet une des bases vraiment à faire.
Et puis quand on fait son site web, on peut très bien le faire lire à quelqu'un avant de le publier pour demander est-ce que c'est lisible, est-ce que ça te fatigue les yeux, etc. Ouais.
Ouais, vraiment. Donc ça, c'est les, ouais, c'est les erreurs. Puis ça nuit beaucoup en fait à même, comment je pourrais dire, à garder la personne sur le site web, parce que c'est sûr que si c'est pas agréable, déjà au niveau de l'œil, ben la personne, elle va s'en aller dans le fond. Donc si jamais on a mis en place justement un système pour voir qu'est-ce que la personne fait sur son site web, on va bien voir que la personne n'est pas restée longtemps sur la page. Donc ça.
C'est à éviter.
C'est à éviter parce que bon, on met de l'énergie, on met un budget sur un site web, donc on veut que la personne, bien évidemment, elle reste sur le site, puis que en fait, les actions qu'on veut qu'elle fasse sur notre site web, ben, qu'elle les prenne, ces actions-là. Donc ouais, donc ça, c'est vraiment des choses à regarder.
Et pour quelqu'un qui démarre, qui a un budget limité, qui peut pas encore faire affaire avec quelqu'un comme toi pour travailler son branding, ce serait quoi les aspects à travailler en priorité? Pour avoir une image de marque efficace.
Oui, alors en fait, ce qui est essentiel, comme je disais, c'est que c'est souvent on n'a pas une identité visuelle complète. Donc je dirais que ma recommandation, ce serait d'aller de faire un brand board, et pas mood board, un brand board. Donc ça, c'est accessible sur Canva, la fameuse application. On peut taper brand board dans le moteur de recherche de Canva. Et dans le fond, c'est quoi un brand board? C'est vraiment une page qui résume toute l'identité visuelle et les essentiels de l'identité visuelle. Donc, dans l'identité visuelle, ce qu'on va retrouver, c'est, oui, les logos. On va retrouver la palette de couleurs, les choix typographiques que tu dois avoir, mettons, pour ton identité visuelle, et une ligne directrice en bas avec un mood board pour, tu sais, connaître un peu le look and feel, l'univers de ta marque. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la base. Souvent aussi, on pourrait retrouver des éléments graphiques, mais ça, c'est un petit peu plus, je pense que c'est un petit peu trop poussé. Mais déjà, si on peut avoir calibré, mettons, tu sais, commencer à choisir, mettons, vraiment les typos et de les choisir et de les garder. Ça aiderait vraiment beaucoup. Puis pareil pour les couleurs. Donc, de statuer sur des couleurs. Puis peut-être même déjà commencer un peu dans Canva à justement essayer une typo dans une couleur qu'on a choisie sur un fond de couleur. Tu sais, voir si les contrastes fonctionnent ensemble avant de commencer vraiment à justement aller dans la plateforme web puis à designer. Ça, je pense que ça aide beaucoup, puis ça va sauver du temps. Donc, voir les contrastes, voir si c'est heureux, voir si le mélange des couleurs fonctionne bien ensemble, voir si les typos qu'on a choisis sont lisibles. Ça, c'est déjà, je pense, vraiment, ça aiderait déjà beaucoup les entrepreneurs qui nous écoutent. Ouais.
C'est vrai que d'avoir un board où on a tout qui est rassemblé, ça permet de ne pas s'éparpiller et de rester, comme tu dis, sur ces typos-là, sur ces couleurs-là.
Ouais.
Parce que c'est facile quand on crée, mettons, sur Canva. Ah, oh, cette typo, je l'avais pas vue, elle est cool. Ah, oh, cette couleur-là, puis on change constamment, puis on n'est pas cohérent finalement dans son identité visuelle. Donc là, d'avoir ce board-là qu'on peut imprimer et puis le mettre sur notre mur à côté de notre ordi pour avoir comme une référence, ça permet de s'y ramener tout le temps.
Ouais, vraiment. Donc, parce que je dirais que c'est l'erreur numéro, ben pas l'erreur numéro, ben oui, c'est une des erreurs qu'on fait, mais c'est souvent aussi la problématique que je vois souvent chez les entrepreneurs. On me dit, moi, j'ai un problème de cohérence avec mon identité d'entreprise. Puis, ben souvent, c'est exactement ce que tu viens d'illustrer, c'est que on va aller dans Canva, puis on va être comme attiré par justement le nouveau Canva qui vient de sortir. On va préférer une typo pour celle qu'on a choisie. Donc ça, oui, ça fait vraiment mal à, ça fait vraiment mal à la réputation qu'on donne, mettons, à une entreprise de toujours changer. Encore une fois, c'est comme si on n'était justement pas stable. Donc, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait parce que c'est comme pas forcément, tu sais, la personne ne va pas forcément le dire, ah, oh, ben, je sens que t'es pas stable, fait que j'achèterai pas tes services. Mais c'est ça que ça veut dire pareil. Tu sais, c'est comme ça qu'elle va se sentir à l'intérieur, mais c'est complètement inconscient. Donc,
Oui, puis on est moins reconnaissable aussi si on change tout le temps
oui.
ses couleurs et ses typos.
Ouais, exact. Et le branding, en fait, ce que ça fait, c'est vraiment que ça travaille la réputation sur le long terme. Donc, de pouvoir vraiment statuer sur nos couleurs et nos typos et de pas trop changer, elle peut progresser, évoluer. Tu sais, je veux dire, une teinte peut changer avec le temps, une typo, on peut un petit peu la modifier, ou mais idéalement, ce serait bien de pas trop changer, là. C'est parce que c'est ça. Comme tu dis, ça enlève l'impact de la mémorabilité, en fait, du brand. Donc, ouais, on va éviter ça.
Puis, à chaque épisode, je demande à mes invités une action concrète qu'on peut mettre en place tout de suite, dès aujourd'hui. Donc là, ça serait pour améliorer notre image de marque. Est-ce que tu dirais que ce serait ce dont tu viens de nous parler, de créer un board?
Ouais, je pense que c'est le meilleur conseil vraiment de créer le brand board parce que justement c'est un exercice que en fait il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ça. Souvent, même si on a le Canva Pro, ça peut être le brand board ou ça peut être si on a le Canva Pro de rentrer dans le fond ces composantes d'identité visuelle dans le Canva Pro. Puis ça, je suis pas sûre que tout le monde sait c'est où, mais on a un endroit en fait sur le menu de gauche là où c'est je pense c'est écrit identité de marque en français. Ça dépend toujours de quel Canva on a. Mais là-dedans, dans le fond, on va avoir l'option de rentrer nos logos, de rentrer nos couleurs, nos codes hexadécimales, les fameux codes qu'on retrouve un peu partout sur le web après, les typographies. Je pense qu'on peut mettre même les photos de marque et les éléments, je pense, les illustrations aussi. Donc ça, c'est où on fait le brand board, comme je disais. Donc sinon, on cherche un brand board dans Canva. Vous allez voir, il y en a plein des templates. Donc en fait, ils sont déjà prédéfinis. Donc on a déjà un peu les catégories de composantes qu'on a besoin d'avoir. Donc ça va vous donner un peu un guide de qu'est-ce qu'on doit faire.
On va le personnaliser ensuite avec nos propres couleurs, nos
Voilà.
propres typos.
Ouais, ben moi je conseille vraiment de personnaliser par exemple, de pas prendre
Oui.
le gabarit. Il se dit ah oh, c'est beau, je vais le prendre. Donc peut-être pour vous aider, moi j'aime beaucoup l'IA, fait que ce serait peut-être de brainstormer peut-être un peu avec ChatGPT, lui demander selon votre industrie les émotions que vous voulez aussi activer chez votre client. Donc de le mettre un peu en contexte, de voir si ça fonctionne au niveau des couleurs parce que c'est sûr que les entrepreneurs ne vont pas savoir c'est quoi la symbolique des couleurs. Donc, de demander à ChatGPT c'est quoi la symbolique de couleurs, si vous avez choisi des couleurs et que ça vous semble bien, ben, confirmez avec ChatGPT, voir si ça fait du sens avec votre industrie, ce que vous voulez offrir et votre clientèle cible. Je dirais que ça, c'est vraiment les points.
Je confirme que ChatGPT peut être intéressant parce que dans ton accompagnement, on a beaucoup brainstormé avec ChatGPT, puis c'est vrai que ses réponses sont impressionnantes des fois, puis permettent de creuser un peu plus notre univers. Puis c'est vraiment intéressant les réponses qui peuvent sortir.
C'est vraiment intéressant. Puis, ouais, puis souvent, ben, ce qu'on peut faire, c'est justement réajuster les couleurs en fonction de ce qu'il va nous dire ou confirmer le choix qu'on a fait. Mais oui, c'est ça, utiliser en fait l'IA pour le branding, c'est pas quelque chose, mettons, qu'on a le réflexe de faire, mais c'est vraiment très puissant. Vraiment, moi, j'utilise beaucoup pour mes clients. J'utilise pour mes clients avec qui je crée des brands, puis je le crée aussi dans, comme tu l'as dit, dans l'accompagnement. Donc, ouais, vraiment à utiliser là. Ce serait ma petite astuce à intégrer avec l'action concrète.
Oui, puis on le voit visuellement aussi quand on va visiter tes pages, que l'IA est très présente avec ta mise
Oui.
de marque, etc. Mais justement, où est-ce qu'on peut te trouver, aller voir ton univers, te connaître un petit peu plus?
Je suis pas mal active sur Facebook, Instagram, donc je pense que ça peut être les bonnes plateformes. Puis c'est vraiment page perso, donc c'est Jenny Jeffy tout simplement. Rien de compliqué. Donc, on devrait me trouver assez facilement sur Facebook ou Instagram.
Oui, de toute façon, je vais mettre les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse te trouver facilement. Ouais.
Super.
Puis, ben là, tu viens nous donner des conseils. Je précise que Jenny va donner des conseils supplémentaires aux abonnés de mon infolettre et des conseils auxquels tu as accès directement dès que tu t'inscris, même si tu t'inscris plus tard. Si tu t'inscris dans un mois, tu auras encore accès aux conseils de Jenny et des autres invités qui sont déjà venus sur mon podcast. Si tu n'es pas encore inscrit, ben, tu peux le faire avec le lien qui est dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Jenny, d'avoir pris du temps pour partager tes conseils. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis, ben, Noël, c'est la semaine prochaine, alors je te souhaite de joyeuses fêtes.
Oui, toi aussi. Merci de m'avoir invitée.
Merci beaucoup. Puis j'en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous dis à l'année prochaine pour le prochain épisode d'un, deux, trois cocktails.
Yes, bye.
Bye bye.